La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Reste-t-il encore des biens ou des services que l'argent ne peut pas acheter ? Après lecture d'une enquête philosophique sur ce que l'argent ne saurait acheter, on peut légitimement en douter. Son auteur est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Il s'appelle Michael Sandel. Michael Sandel, bonjour. Vous êtes philosophe, philosophe politique, vous êtes professeur à l'université de Harvard, dans laquelle vous donnez depuis de nombreuses années un cours célèbre sur la justice. Vous êtes un philosophe qui avait travaillé sur cet objet de la justice, notamment pour critiquer de manière constructive et intéressante le grand livre de John Rawls sur la théorie de la justice. Vous êtes ce qu'on appelle dans la tradition philosophique plutôt un communautarien de gauche, on va dire. Et là, vous venez de publier aux éditions du Seuil, dans la traduction française, un livre d'enquête philosophique, parce que c'est un livre qui frappera certains lecteurs de philosophie français qui seront peut-être surpris par l'attachement aux faits sociaux qui est pour vous primordial, par la multiplicité des exemples sur lesquels vous travaillez. Vous avez mené l'enquête donc pour nous apprendre véritablement à quel point la marchandisation a envahit nos sociétés et combien des biens, mais aussi des services autrefois tenus à l'écart du système monétaire sont aujourd'hui achetables avec des billets de banque ou avec des choses parfois plus élaborées, mais en tous les cas avec de l'argent. Comment en êtes-vous venu à mener cette enquête ? On s'aperçoit en consultant les notes de bas de page que vous êtes un grand lecteur de journaux et que vous avez trouvé dans les journaux une matière extraordinairement riche pour nourrir votre réflexion sur cette progression qui semble sans fin de la marchandisation.
I've been gathering stories and examples for
des articles et des exemples, ça fait 15 ans que j'essaye de les rassembler. J'essaye de m'intéresser à la façon dont de plus en plus d'aspects de la vie peuvent être marchandisés. Et lorsque la crise financière est survenue, je crois que la plupart des gens ont pensé qu'il y aurait un débat public sur ce que devrait être le rôle de l'argent et des marchés dans notre société. Mais malgré la crise financière, ce débat n'a jamais vraiment eu lieu. L'un de mes objectifs avec ce livre, bien que mes recherches aient commencé bien avant la crise financière, eh bien l'objectif, c'est d'encourager, de provoquer un débat public, parce que les marchés peuvent servir l'intérêt général, sinon les marchés peuvent imposer des valeurs qui peuvent être nuisibles à la société. Et c'est justement ce débat-là que je veux essayer d'instituer.
J'imagine qu'on peut qualifier votre travail philosophique, votre enquête philosophique de philosophie morale. Et en même temps, on ne peut véritablement exercer un jugement moral qu'une fois que l'on a consigné des faits qui sont autant de réalités, pour la plupart nouvelles, de l'économie. Et je dois dire qu'en vous lisant, on apprend énormément de ces réalités nouvelles qui, pour beaucoup d'entre elles, n'ont pas encore touché le sol de la France, mais que ça ne saurait tarder, puisqu'évidemment, tout cela prend place dans un phénomène plus large de mondialisation de l'économie, bien entendu. Alors, vous avez, je dirais, gardé la réflexion morale un peu en retrait dans ce livre. Vous avez privilégié le travail d'exposition des faits. Peut-être pouvez-vous nous en dire davantage sur cette méthode d'exposition de vos recherches, d'écriture.
Yes, it's a very good question.
Oui, c'est une très bonne question, cette question sur la méthodologie. Ça peut sembler étrange d'écrire un livre de philosophie en puisant des informations dans des histoires et des exemples réels. Mais j'ai voulu m'y prendre de la sorte pour cet ouvrage, pour que les idées philosophiques soient accessibles au plus grand nombre. Je ne voulais pas que ce livre soit lu uniquement par des philosophes ou des universitaires de tout ordre. Je veux démontrer que la philosophie n'est pas simplement une série d'idées abstraites quelque part dans les nuages. À bien des égards, la philosophie est ancrée dans la vie sociale. La philosophie est ancrée dans la vie publique que nous menons, dans les débats, les discussions que nous avons et les dilemmes éthiques auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Voilà une des raisons pour laquelle je raconte tant d'histoires et pourquoi j'use de tant d'exemples. Mais en creux de ces histoires et de ces exemples sur l'avènement d'une espèce de foi dans le marché avec triomphalisme au cours des 30 dernières années, il faut lire qu'il y a deux objections que l'on peut faire à cette marchandisation. L'une des objections est liée à l'inégalité. L'argent peut acheter de plus en plus des bienfaits de la Terre et l'inégalité qui a augmenté au cours des 30 dernières années, elle aussi, c'est quand même plus important. Mais il y a une autre raison qui fait que l'on peut se préoccuper de la marchandisation de tout, du fait que l'on peut mettre une étiquette de prix sur tous les bienfaits de la planète et des relations sociales. Eh bien, c'est la corruption, la détérioration, la distorsion des normes sociales qui résulte de mettre un prix sur toutes les choses. Ainsi, le message philosophique sous-jacent est lié à la philosophie abstraite qui a été mon sujet de travail pendant des années dans le passé, à savoir que pour décider de la place et des rôles appropriés des marchés et pour décider de leurs méfaits, eh bien, nous devons avoir un débat public sur la signification des biens. Qu'est-ce que ces biens, ces produits et les bienfaits de la vie? Quels sont-ils? Il faut évaluer les pratiques sociales, les relations personnelles, la santé, l'éducation, les médias, la vie civile, la loi, ces questions-là, pour y répondre, nous devons avoir un débat sur la signification des biens et la façon dont nous devons évaluer les pratiques sociales. Voilà donc le message philosophique qui se trouve en creux des histoires et des exemples que je mets en avant.
Alors la dimension de débat, on la voit de temps en temps surgir à la faveur d'une polémique liée à telle ou telle pratique. Je pense notamment à tout ce qui est lié du côté de la biologie, du côté de la reproduction ou des organes, à la marchandisation à la brevetabilité du vivant, par exemple. On voit ces débats surgir, mais c'est vrai que souvent... nous n'avons pas un débat plus global qui mette ensemble des exemples qui, a priori, n'ont rien à voir et qui, pourtant, participent du même phénomène. Et c'est tout l'enjeu de votre enquête, de réfléchir de manière globale en pointant systématiquement ces deux critiques, celle qui a trait aux inégalités, celle qui a trait à la corruption. On va y revenir parce que je voudrais que vous précisiez ce que vous entendez par corruption, qui est une définition peut-être plus large que la définition strictement juridique du mot corruption. Mais avant ça, je voudrais que ces histoires que vous racontez, vous les avez beaucoup mieux en tête que moi, on en donne quelques exemples aux auditeurs pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit effectivement de choses éminemment quotidiennes. Vous consacrez le premier chapitre du livre à ce que vous appelez les coupe-fils, c'est-à-dire aux techniques économiques qui permettent d'échapper au fait souvent pénible dans la vie d'avoir à s'engager dans une file d'attente pour obtenir un bien ou pour obtenir un service que beaucoup de gens veulent obtenir. Et or, on a vu depuis un certain nombre d'années proliférer de manière ingénieuse parfois des façons de couper ces files d'attente et d'obtenir plus rapidement, pour ceux qui en avaient les moyens, les biens recherchés. Michael Sandel.
Yes. Let me give you a few examples.
Oui, je vais vous donner quelques exemples si vous voulez.
In one U.S. city in California.
Il y a une ville en Californie.
If you are sentenced to jail, to a prison
si
term,
on vous impose
the jail cell you're given,
d'aller en prison, mais que la cellule dans laquelle on
money,
vous met ne vous plaît pas, eh bien, si vous avez assez d'argent, vous pouvez acheter une cellule un peu mieux. Donc
take another example.
Passer en première classe, en quelque sorte. Un autre exemple, les coups de fil, vous venez de l'évoquer. Lorsque j'étais jeune, moi, on allait, disons, dans un parc d'attractions de temps en temps. Eh bien, une partie de l'expérience, c'était de faire la queue. La queue était parfois assez longue pour aller sur telle ou telle attraction. Aujourd'hui, si on ne veut pas faire la queue, eh bien, un petit peu partout dans le monde, on peut payer un petit supplément et avoir un billet VIP, autrement dit un coupe-fil. Et ça, c'est un tout petit exemple, on est bien d'accord. Mais c'est vrai même à Washington. Si vous voulez participer à une audition au Congrès, au Sénat, par exemple, il y a des sièges disponibles, ouverts au public, dans la limite des places disponibles, selon l'expression consacrée. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas disposés à attendre et à faire la queue. Par exemple, les gens des lobbies, eux, ils ne veulent pas faire la queue, ces gens-là. Par conséquent, il y a des sociétés qui, aujourd'hui, proposent à ces gens-là de payer une certaine somme en échange d'un SDF qui, lui, va faire la queue pendant des heures, si nécessaire, en moyennant un petit dédommagement, pour passer la nuit là, pour que le lobbyiste arrive et puisse couper la file.
Even these examples are small.
Là encore, c'est un petit exemple, mais cela démontre quand même que le phénomène est assez vaste. Il s'agit du rôle croissant de l'argent qui permet aux gens qui détiennent de l'argent de couper les fils et pour être le premier à bénéficier de tel ou tel service, et ce, dans pratiquement tous les aspects de la vie, et c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour la santé, les soins, et c'est vrai aussi pour l'influence politique.
Vous prenez des exemples incroyables. Vous savez, il y a ces files d'autoroute rapides que seuls les véhicules occupés par plus de deux personnes ou plus ont l'autorisation d'emprunter. Et vous avez des gens qui peuvent aller jusqu'à recourir au service d'une prostituée pour occuper le siège passager afin d'emprunter ces voies rapides, par exemple. Mais autre exemple intéressant et qui permet peut-être de comprendre ce que vous appelez corruption en l'espèce, corruption du bien recherché. Et ce bien peut être gratuit. C'est l'exemple de ces billets de théâtre pour des représentations données à New York en plein air, qui est un festival très connu de théâtre et dont le principe philosophique, j'allais dire, est la gratuité des billets. Sauf que selon cette loi, il faut évidemment s'y prendre tôt pour faire la queue et obtenir le billet. Alors, même mécanisme que celui que vous venez d'expliquer à propos du Congrès américain. Des gens payent d'autres personnes qui font la queue à leur place et du même coup obtiennent ces billets gratuits en payant quelqu'un qui remplit ce service. Mais là où ça peut poser problème et peut-être corrompre le spectacle, puisque le festival lui-même repose sur cette philosophie de la gratuité, on le comprend encore davantage lorsqu'il s'agit d'un show dans un stade gigantesque de baseball qui est donné par le pape lui-même. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce que le fait d'assister au discours du pape en ayant payé son billet, alors qu'évidemment les billets ne sont pas en vente, a encore un sens par rapport à ce qu'on va entendre dans le stade ?
In the case of the theater, the outdoor spectacle.
Dans le cas du théâtre, the whole idea is to have free public theater. L'idée, c'est de proposer un théâtre public gratuit.
Of standard economic analysis.
Du point de vue de l'analyse économique, normal, disons.
There is an argument in favor,
on peut
say many economists,
arguer
in allowing people to buy and sell the
en faveur de la possibilité de vendre et d'acheter des billets, d'acheter des billets sur le marché noir aussi. À l'entrée, il y a beaucoup d'économistes qui vont vous dire que le fait de revendre un billet à quelqu'un qui est prêt à payer un supplément, c'est une façon de transférer l'expérience du spectacle à ceux qui sont le plus désireux et le plus capables de profiter de ce spectacle. Évidemment, cela néglige le fait que les plus fortunés sont dans la position la plus avantageuse. Et c'est là que s'opère l'objection en matière d'inégalité. Cela restreint, ça limite l'accès à ceux qui ont l'argent. Bien. Mais il y a une autre objection qui peut s'opérer aussi. Elle est liée au fait que l'expérience devient déformée, parce que c'est quand même à la base une expérience publique, gratuite, partagée, disponible pour tous. Donc là, c'est une espèce de corruption d'une certaine idée civique, je dirais. Il s'agit d'un festival de partage tout de même. Et du coup, oui, le partage, lui, se trouve réduit pour tous si, justement, cet esprit de cette expérience civique publique gratuite est limité par des considérations de marché.
So this brings out the two objections,
et donc,
the two philosophical objections.
Il y a deux objections philosophiques qui sont en jeu là. Et c'est là que l'on peut critiquer la marchandisation à deux égards. Tout d'abord, du point de vue de l'inégalité, c'est injuste pour les gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des billets chers.
Mais
en dehors de cette question de l'inégalité et de justice, d'équité, il y a le fait que l'on déforme, que l'on corrompt, dévoie, si vous voulez, une expérience publique civique.
Now, of the two objections,
sur ces deux, objections, celle de l'inégalité, on la connaît. Elle nous est familière. Dans mon ouvrage, j'essaie de mettre en lumière l'argument lié à la corruption, parce que là, il faut bien regarder l'importance qu'il y a à débattre ensemble du bienfait de débattre des qualités, des vertus
and
qu'il y a à tous profiter ensemble d'un bien public comme ce festival public. Et ces débats sur les bienfaits de la vie et les bienfaits de la société, on est un petit peu réticent d'en débattre. Et moi, je voudrais que ce débat ait lieu. Je veux que l'on parle de la signification des biens que nous devons partager.
Ce problème de la corruption de certaines activités social, on le perçoit bien aussi à travers un autre type de marchandisation, à savoir, on a importé le mot dans la langue française, ce qu'on appelle les incentives en français, c'est-à-dire toutes ces manières qu'il y a à encourager, à motiver par l'argent ou par des récompenses des gens pour une activité à laquelle ils se livrent. Alors il y en a qui sont un peu choquantes parfois, ça dépend peut-être du jugement moral de chacun, mais vous citez par exemple une histoire que vous avez rencontrée très jeune, puisque à l'école, vous avez été surpris de voir que certains des élèves qui étaient à côté de vous étaient encouragés à lire des livres. Leurs parents leur donnaient de l'argent pour les féliciter quand ils avaient lu un livre.
Au-delà de ça, dans certaines écoles, on essaye d'encourager les élèves à lire des livres. On essaye de les encourager à avoir de bonnes notes aux examens. Et par conséquent, dans certaines écoles, on propose de l'argent aux élèves qui lisent les livres et qui ont de bonnes notes. Alors, on peut faire une objection.
Goes back to the idea of corruption.
Ça nous ramène à l'idée de corruption, comme vous disiez.
Because what lesson?
Parce que
is the young student learning?
Qu'est-ce qu'apprend
when he or she is offered
lorsqu'on lui donne 2 dollars pour la lecture d'un livre. Même si l'enfant lit davantage, la motivation pécuniaire pourrait bien dire à cet esprit jeune, c'est que la raison pour laquelle on lit, c'est pour gagner de l'argent. Donc la lecture, c'est une tâche et pas une joie.
And if that's the lesson,
et si c'est ça, la leçon que retire l'enfant,
then when the money stops
bien,
being paid,
si on ne donne plus d'argent à l'enfant,
then
qu'est-ce qu'il va
the
faire
reading, the
eh bien,
reading may also
il ne va plus lire,
end. So this is an
selon toute vraisemblance. Donc, voilà un exemple de la façon dont une motivation pécuniaire, j'ai bien dit pécuniaire,
peut
corrompre ou même faire disparaître
higher goods,
des biens,
higher reasons, higher motives.
Enfin, des motivations plus nobles.
Intrinsic motivations.
Donc des motivations intrinsèques
for reading,
de, disons,
and learning,
lecture ou
and teaching,
d'apprentissage ou d'enseignement.
On comprend bien que ce sont des logiques économiques qui sont à l'origine de ce type de mécanismes, de techniques de marchandisation. Mais pour autant, parfois, elles sont contre-productives. Vous donnez des exemples d'incitations qui produisent l'effet inverse de celui recherché et où on s'aperçoit en comparant des équipes qui ne sont pas motivées financièrement avec d'autres qui le sont, que celles qui agissent sans intérêt, de façon désintéressée au plan financier, sont plus efficaces économiquement parlant.
One example is some high school students.
Oui, prenons un exemple.
Every year,
des lycéens
raise funds for charity.
Ils lèvent des fonds dans un but caritatif.
One year, some economists did an experiment.
Il y a une année
où
il y a un économiste qui a mené une expérience
avec
ces lycéens.
They divided them into three groups.
Les lycéens ont été divisés en trois
groupes.
The first group, premier groupe,
received a short speech about the importance of the charitable causes.
Un discours sur l'importance des causes charitables.
For which they were raising money.
Justement pour lesquels ils essayaient de lever des fonds.
And they were sent off.
Ces gens-là, donc ces lycéens, donc sont partis pour essayer d'aller chercher des sous pour leurs causes charitables.
Was given the same speech.
Deuxième groupe, même discours.
And offered
et en plus, on leur donne une commission de 1% sur tout l'argent qu'ils arrivent à récolter. Troisième groupe, même discours, et on leur donne une commission de 10% sur l'argent qu'ils arrivent à récolter. Quel est le groupe qui a récolté le plus d'argent, à votre avis ?
Surprisingly to some,
eh bien, ça peut paraître étonnant,
the group that was
mais
not paid anything,
c'est le groupe qui a agi gratuitement, qui a levé le plus de fonds.
From the standpoint of standard economic theory,
du point de vue de la théorie économique,
this is puzzling.
C'est
this
quand
surprising.
Même assez déroutant.
Because normally to pay someone,
parce que lorsque l'on rémunère quelqu'un,
gives them an incentive
eh bien, on encourage
harder.
Cette personne à faire des efforts
so
pour mener sa tâche le mieux possible. Pourquoi
more,
ceux qui ont été payés rien du tout ont-ils pu lever plus de fonds que ceux qui touchaient une commission même de 10%? Eh bien, c'est parce que la motivation pécuniaire a corrompu, voire détruit la motivation intrinsèque, la motivation morale, l'espèce de notion de cause qu'on essayait de servir.
Again,
donc, encore une fois,
of the way in which
voilà un exemple dont la façon dont la réflexion de marché et les mécanismes de marché peuvent parfois corrompre et nuire à des valeurs qui ne sont pas liées au marché et peuvent avoir un effet opposé à celui qui était à l'origine des intentions.
Alors là, il s'agissait d'une démarche dans un but caritatif, mais on peut se demander si on ne produirait pas, certaines fois, s'agissant de certains biens commerciaux, les mêmes résultats. Et certains directeurs commerciaux feraient bien de s'interroger sur cette façon qu'a l'économie de fonctionner, qui consiste à rétribuer beaucoup plus, en général, ceux qui sont dans des fonctions commerciales, de marchandisation, que ceux qui sont dans des fonctions d'invention, par exemple, de développement, de recherche dans les entreprises. On pourrait se poser la question, puisque le capitalisme a fait le choix de mieux rémunérer les vendeurs plutôt que les inventeurs, par exemple, de molécules dans les laboratoires. Mais on va prendre d'autres exemples. Ils sont très nombreux dans votre enquête, Michael Sandel, notamment ceux qui sont peut-être les plus sophistiqués aujourd'hui dans le capitalisme et qui procèdent de cette dérivation des produits financiers du capitalisme. Ce qui a trait à l'assurance vie, par exemple, est assez terrifiant, où l'on voit que des mécanismes très très compliqués ont été inventés pour parier et gagner potentiellement de l'argent sur la vie ou la mort de gens qui ont contracté certains types de contrats.
Yes, life insurance now has become less a source of a way of providing security for one's family.
Plus d'apporter la sécurité à sa famille.
And it's become really a way
L'assurance
of gambling
est devenue
on the life
un pari sur la vie et la mort
people.
D'un autre individu.
Increasingly, companies
de plus en plus,
will buy life
les entreprises souscrivent à une assurance d'essai sur leurs employés, même les personnels du nettoyage,
so
hein, tout le monde. Ainsi, lorsque ces salariés meurent, eh bien, l'argent ira non pas à la famille du salarié, mais à l'entreprise. On pouvait, dans le passé, acheter une assurance anti-incendie pour son propre domicile.
But that's a source of security,
bon,
protection.
Ça apporte une espèce de protection, une sorte de sécurité. Mais, dans le passé,
fire
je me souviens
on your house.
Qu'il était impossible d'acheter une assurance incendie sur
that
votre maison à vous, Monsieur Bourmont. Ce serait un pari, quoi, c'est tout. Est-ce que votre maison va brûler ou pas,
bon.
De même,
je
pouvais protéger ma vie et souscrire une assurance d'essai dont les bénéficiaires seraient ma famille, mais je ne pouvais pas acheter une assurance d'essai sur votre vie à vous. Ce serait un pari sur le moment de votre décès. Mais aujourd'hui, on assiste à la création d'un marché secondaire de l'assurance d'essai d'une immensité qui vous laisse les bras ballants. Il s'agit de parier sur le moment de trépas d'un individu ou d'un groupe d'individus. Alors là, c'est une distorsion, une corruption, un dévoiement du fondement même de l'assurance. Ça devient un instrument financier, ni plus ni moins, encore un instrument financier avec lequel les gens de Wall Street pourront gagner de l'argent.
Alors là, on s'aperçoit que tout ça est rendu possible par le droit, mais le droit entre personnes, entre individus, et ce qu'on se dit après avoir lu cette enquête très très riche que vous avez menée, c'est que il y aurait probablement besoin d'une législation et parfois que l'État impose des règles du jeu qui interdisent certains types de pratiques.
Yeah. The general point is this. Economics. Many economists.
D'un point de vue général, on peut dire ceci. Il y a beaucoup d'économistes. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'économie, c'est une science neutre qui s'intéresse à la valeur des choses. Mais cela n'est pas vrai. C'est ce que j'essaie de démontrer. L'économie doit à nouveau s'ancrer dans la tradition plus ancienne de l'économie morale et politique. Et pour ce débat public que j'exhorte, que j'appelle de mes voeux, et nous devons nous pencher sur des questions d'éthique, de justice, le bien commun, comment valoriser les biens, les pratiques sociales. C'est, à mon sens, la seule façon de procéder. Parce que c'est seulement ainsi que l'on pourra décider du rôle adéquat des marchés pour ce qui est de servir le bien public.
Merci beaucoup, Michael Sandel. Je rappelle le titre de cet ouvrage passionnant, « Ce que l'argent ne saurait acheter ». Il paraît aux éditions du Seuil. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Geneviève Méric. Merci à Xavier Combe pour sa traduction. À la technique, Léa Le Foll. À la réalisation, Ghislaine David. Et on retrouve Jean Deloisy sur l'antenne de France Culture.